Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. L'Iran à la une ce samedi avec deux sujets que nous développons avec notre invitée, la sociologue politique franco-iranienne Mahnaz Shirali. Les suites de l'affaire du Boeing ukrainien abattu en janvier 2020 avec 176 personnes à bord et la gestion de la pandémie du coronavirus avec l'annonce d'un refus des vaccins occidentaux au profit, semble-t-il, d'un hypothétique vaccin iranien. Dans la seconde partie de l'émission, nous lirons la presse régionale avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanté au Caire. Bonjour Mahnaz Shirali.
Bonjour Éric Bataillon.
Sociologue et politologue, professeur à Sciences Po à Paris. Il y a un an, le 8 janvier 2020, un Boeing 737 d'Ukraine International Airlines, qui venait de décoller de l'aéroport de Téhéran à destination du Canada, était abattu par deux missiles. Dans un premier temps, le régime iranien nie toute implication, puis finalement reconnaît du bout des lèvres une erreur humaine. Mahnaz Shirali, où en sommes-nous de cette triste affaire ?
En tant que quelqu'un qui observe la situation iranienne de Paris, et je peux vous dire que les Iraniens sont en colère parce que un an après, ils savent absolument rien de ce qui s'est passé. L'État n'a donné aucune explication. Aucune enquête sérieuse n'a été menée. D'autant plus qu'ils ont fermé les portes aux enquêteurs internationaux. Les Iraniens sont furieux parce qu'ils se demandent ce qui s'est passé. Il y a deux thèses qui courent. Il y a des Iraniens qui pensent que c'était pas du tout une erreur, c'était voulu. C'est parce qu'il y a des événements de ce genre déjà dans le passé de la République islamique. À chaque fois qu'il est en difficulté avec la communauté internationale, ce genre de crises se produisent pour créer une ambiance ambiguë, chahutée et pour détourner l'attention publique. Donc, ils disent que deux missiles successifs ne peuvent pas être une erreur humaine, d'autant plus qu'un an après, aucun responsable n'a été reconnu, n'a été déféré devant la justice. Donc, c'est la première thèse. Deuxième thèse, ce sont les experts militaires qui disent non, ce genre d'erreurs sont normales. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un pays où ce ne sont pas les experts qui sont à la tête des responsabilités. Les responsabilités ne sont pas dans les mains des experts. Ce sont les gens qui n'ont aucune formation, qui ne maîtrisent pas ce qu'ils ont à leur disposition. Et c'est la raison pour laquelle ce genre de désordre est normal. Il y a, comme je vous ai dit, il y a deux thèses. Un an après, il est vraiment difficile de dire si c'était vraiment une erreur ou c'était exprès, c'était intentionnel. Mais on peut vous dire une chose, que un an après, la République islamique n'a aucune volonté d'élucider la situation, de donner des explications aux Iraniens.
Néanmoins, la République islamique a décidé d'indemniser les familles à hauteur de 150 000 dollars. Est-ce que c'est une façon finalement de reconnaître son implication dans cet accident mortel ?
150 000 dollars, qu'est-ce que c'est par rapport à la vie humaine ? 176 personnes ont péri dans cette histoire et 176 vies ont été vraiment détruites. Est-ce que cet argent pourrait les réparer ? Absolument non. Si je faisais partie des familles de victimes, je serais furieuse. Heureusement, je ne suis pas, j'en fais pas partie, mais je ne peux pas parler à leur place. Mais ce que j'ai pu entendre de la part de leur déclaration, pour eux, ce n'est vraiment pas suffisant. Ils demandent une responsabilité de la part de l'État. Ils demandent d'élucidation de la situation, d'éclaircissement sur l'événement.
Justement, le Canada considère que cette indemnisation de 150 000 dollars par personne décédée est insuffisante. Ralph Goodall, le conseiller spécial du gouvernement canadien chargé de ce dossier, veut des réponses à 21 questions très précises. Est-ce qu'il a des chances de les obtenir, ces réponses ?
On peut, Éric Bataillon, on peut souhaiter pour lui qu'il obtienne des réponses, mais par contre, connaissant la République islamique, moi je peux lui dire quand même qu'il ne faut pas trop attendre.
Alors, beaucoup de familles en Iran, comme à l'étranger, font état de pression des familles de victimes. Certains évoquent même des menaces directes sur leur compte de messagerie. On les accuse de dénigrer le pays, d'être des traîtres à la nation. Ces pressions vous paraissent-elles être spontanées ?
Et ces pressions, c'est directement de la part de la République islamique et de la part de ses services secrets. On connaît à chaque fois que on demande des comptes aux dirigeants iraniens, on est immédiatement menacé. Vous voyez, même ceux qui vivent à l'étranger, ils ne sont pas à l'abri. Alors comment voulez-vous les gens qui vivent en Iran aient le droit de poser des questions à leurs dirigeants? Quand on connaît la pression qui est sur les citoyens français déjà en France, en tant que citoyenne française, je peux vous dire que le nombre de menaces que j'ai reçues parce que j'ai interrogé, j'ai posé des questions, j'ai critiqué la République islamique. Alors, je peux même pas imaginer ce qui est le sort des Iraniens à l'intérieur du pays qui osent lever la voix et demander des comptes aux dirigeants de la République islamique. Ces dernières années, ces dernières décennies, toute recette pétrolière de ce pays est allée directement dans les poches de ses dirigeants. Le guide de la révolution, Monsieur Khamenei, un monsieur de 82 ans, il est à la tête d'une fortune de 95 milliards de dollars. J'ai pas dit millions, j'ai dit Eric Bataillon. Écoutez-moi bien, j'ai dit milliards. 95 milliards de dollars est la fortune de Ali Khamenei, selon Reuters.
Mama Shirali, l'autre actualité de ces derniers jours en Iran est liée évidemment à la pandémie du coronavirus. Le 8 janvier, le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a annoncé qu'il était désormais interdit d'importer des vaccins fabriqués soit aux États-Unis, soit au Royaume-Uni. Comment interpréter cette décision dont le caractère dogmatique semble évident?
Alors, vous voyez, moi je qualifie cet énoncé du guide de la révolution comme cohérent. Vous voyez, elle est cohérente dans le sens où quand on regarde comment la République islamique a réagi face à la pandémie de corona, je les trouve d'une cohérence irréprochable. Parce que dès le début, ils ont caché le nombre des victimes, le nombre des malades. Et l'année dernière, à la même époque, alors qu'ils savaient que la ville de Qom était profondément atteinte, il y avait plein de cas de coronavirus. Ils l'ont caché, ils l'ont dissimulé, ils n'ont rien dit. Pourquoi? Parce que c'était l'anniversaire de la révolution de 1979 et du coup, ils voulaient que les gens participent aux cérémonies pour montrer aux étrangers, à la communauté internationale, comme quoi la République islamique est populaire. Après, quand les cérémonies ont terminé, ils n'ont pas encore annoncé parce que c'était les élections législatives. Ils voulaient que les gens participent aux élections. C'est à la fin des élections, à l'approche du nouvel an iranien, tout d'un coup, pour que les gens ne partent pas en voyage, pour qu'ils ne fêtent pas le 21 mars, le nouvel an iranien, tout d'un coup, ils ont annoncé qu'il y a le corona dans ce pays. Une fois que l'annonce a été faite, ils n'ont rien fait pour protéger les populations. Rien fait. Et depuis un an, on regarde ce qui s'est passé. Ils ont systématiquement dissimulé, même l'année dernière, c'était vers mois de mai, que l'Institut des statistiques nationaux iraniens ont annoncé ouvertement que pour l'année 2019-2020, on ne va pas dévoiler le chiffre des morts parce qu'on ne veut pas provoquer la panique dans la population.
Donc le chiffre de 54 000 environ décès est...
Ce n'est pas officiel.
C'est sous-évalué.
Largement, largement, ça ne colle absolument pas à ceux qui sont sur le terrain et qui observent la situation nationale.
Mais justement, sur la question des vaccins, si les vaccins occidentaux ne sont pas acceptés, avec quel vaccin la République islamique va-t-elle vacciner sa population?
Alors, je ne sais pas, Eric Bataillon, si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle. En tout cas, hier, ils ont annoncé que les ayatollahs eux-mêmes sont en train de fabriquer un vaccin iranien. Donc, ils veulent vacciner les Iraniens avec leur vaccin islamique. Évidemment, ça a provoqué la risée des réseaux sociaux et la rage, la colère des internautes, mais on ne peut pas attendre quand même que les ayatollahs se soucient de la population, de la santé de la population, parce qu'on sait très bien que pour eux, ce qui est important, c'est le pays et c'est sa richesse. Et ce qui est de trop, ce sont les Iraniens. Donc, le coronavirus, cette maladie est la complice de la République islamique, parce que qu'est-ce qu'elle fait cette maladie? Elle élimine les Iraniens qui sont déjà de trop. Donc, pourquoi ils veulent les protéger? Ça devient incohérent. Par contre, ils sont très cohérents. C'est-à-dire que ils se moquent des intérêts nationaux de leur peuple, ils se moquent de leur peuple, et dès le début de l'avènement de la République islamique à ce jour, ils ont toujours prouvé qu'ils sont égaux à eux-mêmes.
Juste un mot sur ce vaccin iranien auquel vous faites allusion. Est-ce que l'industrie pharmaceutique, il y en a une en Iran, est capable de fabriquer un tel vaccin ?
Autant que je sache, l'industrie pharmaceutique iranienne est une industrie assez avancée. Sur beaucoup de plans, ils sont capables de produire des médicaments locaux, mais grâce aux matières premières qui viennent des laboratoires étrangers, évidemment. Mais par contre, vous savez mieux que moi, Monsieur Bataillon, que l'industrie pharmaceutique est une chose, la science de produire un vaccin, c'en est autre. Et jusqu'aujourd'hui, l'Iran n'a jamais eu la réputation d'être producteur de vaccins. L'Iran n'a jamais fait ça. Et comment est-ce possible que du jour au lendemain, les Iraniens deviennent capables de produire le vaccin? Un vaccin qui est déjà très problématique. Vous écoutez nombre d'épidémiologistes ici en France qui remettent en question l'efficacité, les effets secondaires et plein de choses. Comment les Iraniens qui n'ont jamais produit de vaccin seront-ils capables de le faire? Ça, c'est le mystère des ayatollahs, peut-être par miracle islamique.
Une affaire à suivre donc. Merci Marnas Chirali.
Merci Eric Bataillon.
Sociologue et politologue, enseignante à Sciences Po Paris.
Merci.
Allez, pour se remonter le moral, cette chanson iranienne qui a du succès, Ichi Nemiche de Baba Kafra. غم و استرس ها رو چال کن نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه چون هیچی نمیشه طلا و دلار رو ولش کن در غصه رو کاگلش کن دیگه سخنگی رو شلش کن بابا بسته دیگه ببین دل چی میگه عمرو به خوشی سر کن و ارس و جوش رو کم تر کن و دنیا رو رها کن زندگی بمون بنده حال بد کیلو چنده خوش باش و صفا کن
اوریان ابدو سر RFI.
L'actualité de la semaine dans le monde arabe et en Israël, nous retrouvons Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Et Michel Paul à Jérusalem. Bonjour Michel.
Bonjour.
Dans vos journaux cette semaine, l'arrivée de Joe Biden à la présidence des États-Unis. Alexandre, vos journaux sont plutôt réservés.
Oui, et c'est une réserve mêlée de méfiance qui domine dans la presse arabe. Pour les médias palestiniens, même si personne ne peut être pire que Donald Trump, on se méfie de Joe Biden, perçu comme un ami d'Israël. On s'attend tout au plus à une amélioration de façade, mais pas à un retour de l'ambassade américaine de Jérusalem à Tel Aviv ou à une sérieuse relance des négociations sur la base de deux États. Du côté de la presse du Golfe, et notamment saoudienne, on appréhende un rapprochement avec l'Iran, ou tout au moins une réduction de l'hostilité américaine au régime des ayatollahs. Certains éditorialistes vont même jusqu'à expliquer que Donald Trump a été victime de la pandémie du coronavirus, alors que son bilan, surtout économique, était globalement positif.
Michel Paul, quelle réaction dans la presse israélienne à cette arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche ?
Changement de cap aussi, donc, pour les dirigeants israéliens avec le départ de Donald Trump. Au revoir Disneyland, titre un chroniqueur. Maintenant au travail, titre un autre éditorialiste, pour marquer le sérieux de la nouvelle administration par rapport à l'ère qui s'achève. Ce n'est ni plus ni moins qu'un sioniste qui s'installe à la Maison Blanche. Pour Yedioth Ahronot, Donald Trump était une sorte de rêve, de fantaisie qui s'était réalisée, cela non pas seulement pour la droite en Israël, mais en fin de compte, explique encore le journal, sa relation avec Netanyahou avait fini par causer du tort à Israël. Biden et sa coéquipière appartiennent, eux, à l'aile pro-israélienne du Parti démocrate. Sur deux points, cependant, il risque d'y avoir des frictions avec la nouvelle administration, la colonisation et surtout le dossier nucléaire iranien. C'est un petit bout de normalité qui refait son apparition, ajoute le journal. Eric, la presse israélienne se demande si Trump a finalement été un bon président pour Israël. Pas de réponse tranchée, mais le transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem et les accords de normalisation jouent en sa faveur, estime la majorité des commentateurs. En tout cas, pour Israël Ayom, proche du pouvoir en Israël, l'arrivée de Biden à la tête de l'administration américaine provoque plus de crainte que d'espoir. Le véritable test, estime encore Haaretz, aura lieu le 23 mars prochain, la date des élections législatives en Israël.
Autre sujet commun à vos journaux, la crise sanitaire. Alexandre Bouchanti, le Liban balance entre état d'urgence et scepticisme.
Malgré le confinement et sa prolongation jusqu'au 8 février, la situation au Liban ne s'améliore pas. Jeudi, le pays a enregistré un nouveau record avec 67 décès. Même si le nombre de nouveaux cas, 4594 jeudi, ne semble pas élevé, il est en réalité pour un pays d'à peine 7 millions d'habitants. Les hôpitaux, précisent les journaux, sont totalement débordés avec plus de 110 000 malades du coronavirus actuellement. Le scepticisme de la population est lié à sa méfiance à l'égard du pouvoir. De nombreux Libanais déclarent aux journaux qu'ils n'espèrent même pas que le vaccin pourra améliorer la situation. Les aides pour acheter les vaccins finiront comme une grande partie des aides pour reconstruire Beyrouth, c'est-à-dire sur des comptes offshore.
Cette crise sanitaire en Israël, Michel Paul, et la publication du rapport sur la pauvreté en Israël, un lien de cause à effet, mais pas seulement.
Oui, la presse relève un léger mieux, un taux de transmission du virus en baisse. Si nous le voulons, nous pouvons sortir les premiers de cette crise, souligne un expert dans un article d'opinion. Marive, lui, parle de l'effondrement du système sanitaire. Alors dans la presse aussi, donc, Eric, les affrontements avec les ultra-orthodoxes qui ne tiennent pas compte des directives du confinement. Une bonne nouvelle aussi, la reprise des activités culturelles dès le mois prochain, mais aussi, et c'est bien sûr lié, la publication d'un rapport accablant sur la pauvreté en Israël. La crise du coronavirus a touché tous les foyers en Israël, mais en premier lieu les plus pauvres, et ils sont 2 millions.
Deux autres sujets à retenir dans vos journaux cette semaine, notamment, Alexandre, ce projet de loi pour durcir les peines contre l'excision en Égypte.
Même si l'on n'a pas de statistiques précises du nombre d'excisions, on sait que cette mutilation génitale concerne entre 60 et 90% des femmes. Et si la courbe a baissé du fait d'une série de lois contre l'excision, la pratique est loin de disparaître. Selon le journal Al-Watan, le gouvernement a préparé un projet de loi qui punit tous les responsables de l'excision de peine de 7 ans de prison, parents compris. La peine peut s'élever à 20 ans de prison incompressible si l'excision est pratiquée par du personnel médical et qu'elle entraîne la mort.
Michel, les élections israéliennes, ce sera dans tout juste 2 mois.
À 2 semaines du dépôt officiel des listes, de nouveaux sondages. Selon Mariv, on note une envolée du Likoud de Benjamin Netanyahou qui pourrait réaliser son rêve, mettre sur pied une étroite coalition de droite et échapper ainsi à la justice qui le poursuit, notamment pour des délits de corruption. Malgré tout, Eric, 43% des personnes interrogées pensent que Netanyahou est le plus à même de diriger un gouvernement. Mais, élément nouveau et intéressant, 40% pensent que son adversaire Gideon Sar ferait lui aussi l'affaire.
Et puis, vos images de la semaine, Michel?
Eh bien, cette semaine, 2 photos, celle d'Aviem Sella, qui a bénéficié au dernier moment d'une grâce présidentielle de Donald Trump, ancien militaire et agent secret. C'est lui qui avait recruté aux États-Unis l'espion Jonathan Pollard, qui, après avoir purgé une peine de 30 ans de prison, vient de s'installer en Israël. Et puis, dans un tout autre registre, la photo du chef israélien Asaf Granit, son restaurant méditerranéen Chabour, en plein cœur de Paris, vient de se doter d'une première étoile Michelin.
Où nous irons certainement lorsque les restaurants pourront de nouveau ouvrir en France. Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo, une réalisation Mathias Golshani, que vous pouvez réécouter sur notre site www.rfi.fr. Vous pouvez également vous abonner à notre podcast sur notre application Pure Radio. Demain, nous rendrons hommage au poète franco-syrien Adonis, qui a eu 90 ans en 2020. À demain, prenez soin de vous.